Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le DAV derrière le micral à la jactance et le Luca derrière les potards à la technique. On est en différé à l'antenne d'RCN Radio Caraïbes Nancy sur les ondes www.rcn-radio.org et sur la toile. Non, c'est le contraire, ça commence bien. Et sur la toile, 90.7 FM, vous faites le contraire et vous avez tout compris. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 1009e jour d'occupation hollando-valso-médéfienne, nouveau petit saut dans le temps, 30 piges exactement dans le passé, en l'an de grâce 1984. Et ça démarre comme ça.
Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. Service torture, service mental. Service secret, service fâcheuse. En Sibérie occidentale. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. La dictature s'est imposée. Les militaires sont au pouvoir. Dans les camps, y'a de bon à voir. Service torture, service nada. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose.
Bienvenue, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'émissions censurées ainsi que de Radio Caraïbes, RCN, bien sûr, comme d'hab. Et alors là, je viens tout juste de finir la préparation de cette émission. Je vous le dis de net de nœud. J'ai peaufiné à la dernière virgule près 5 minutes avant de partir en studio. Alors, eh bien, bienvenue. Donc ça, je vous l'ai dit. Le thème de le soir, comme je vous l'ai suggéré avant que les Bérunes commencent, eh ben c'est la suite. Il y a 30 piges. On avait fait ça l'année dernière, souvenez-vous, en 80, 3 pour l'année 83. Alors oui, effectivement, 84, on est déjà en 2015. Mais c'est pas grave parce que le temps radiophonique et surtout de documentation pour la préparation de ces émissions sur Y'a 30 piges, le temps radiophonique n'est pas le même que le temps usuel. Alors, comme c'est une préparation qui m'a demandé au moins, je dis bien au moins, 2 mois, et ben voilà. Hein, c'est pas parce qu'on est en début 2015 encore. On va en finir avec 2014 et pour bien en finir avec 2014, eh ben on va retourner donc en 84. Ce qui tombe super bien puisque le morceau qu'on vient de s'écouter, le premier morceau de cette série, s'appelle Nada 84. Il date donc évidemment de 1984. Il est signé Les Berruriers Noirs parce que souvenez-vous, les épisodes précédents, on les avait clos justement avec Les Berrues et justement avec des extraits de Nada. Alors, ce Nada, cette version de Nada, Nada 84, elle date, ça je l'ai dit, de 84. Elle est issue du premier 45 tours qui contient 4 titres, qui s'appelle donc Nada 84 aussi, qui est sorti en juin 84. Là, ça ressemble à du bourrage de crâne autour du 8 et du 4. Et il est sorti à 700 exemplaires précisément. Et il est sorti chez Rock Radical Records. On peut le retrouver, ce morceau, il a été réédité ensuite dans la réédition de Concerto pour Détraqué en CD par Folklore de la Zone Mondiale et Bondage Productions, si vous voulez tout savoir. Et c'est même par ce morceau-là que commence la réédition en CD. Ceci étant dit, pour ce deuxième double ou triple épisode, je ne saurais vous dire à l'instant où je vous parle, donc ce double ou triple épisode de la série Y'a 30 piges, dont vous pouvez évidemment réécouter les deux premières salves, à savoir l'émission 190 et l'émission 191 des 5 et 12 février 2014, qui figure dans l'intégrale d'émissions censurées. Vous savez où la trouver, cette intégrale, et qui couvrait la période de 1975 à 83. Nous voici donc repartis pour un petit voyage dans le temps qui va nous ramener en 84, année orwellienne s'il en est, et hautement alternative, c'est rien de le dire. Alors, mais avant, les amis, de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel géopolitique, tic-tic, pour bien se remettre dans le contexte de l'époque. En 1984, dans le monde, c'est encore et toujours la guerre froide. D'un côté du mur, avec un grand M, Reagan est réélu le 6 novembre à la tête des États-Unis d'Amérique du Nord, après les Jeux Olympiques d'été de Los Angeles, largement boycottés par le bloc adverse. Et Reagan continue la politique ultra-capitaliste qui prône l'endettement de l'ensemble de la population ricaine pour mieux faire bondir la consommation tous azimuts, pour mieux exacerber la puissance bancaire grâce aux crédits autorisés, pour tout et n'importe quoi, pour le bonheur donc des classes bourgeoises et industrielles, bref, de l'économie du fric à très court terme. Et tout ça afin de mieux la foutre au cul du camp d'en face, ces sales cocos qui n'ont jamais vraiment été, et qui finiront par ne plus pouvoir suivre. C'est d'ailleurs le but avoué, le même que Thatcher, son alter ego british, pour qui il n'y a pas d'autre alternative que la contre-révolution libéraliste, et qu'il prouve en laminant la grève généralisée des mineurs de tout le Royaume-Uni. Mineurs, syndicalistes, Irlandais en lutte et populations prolétaires se rendront vite compte que le surnom de « Dame de fer », au bout de 5 ans de pouvoir en tant que première ministre, elle le restera jusqu'en 90, est absolument mérité, même largement euphémistique, tant la répression sera sans pitié, sans équivoque et sanglante. Ce qui nous fait venir à Pinochet. Pinochet, l'ami intime des deux leaders du monde libre précité et qui restera le magnifique dictateur à uniforme et lunettes noires, le tombeur de ces dames et surtout de Salvador Allende 11 ans auparavant. Allende, ce gauchiste irresponsable qui faillit renverser l'équilibre de tout le sous-continent américain et privant les intérêts bancaires et industriels du monde libre, encore eux, d'une juteuse cour de récréation et fructueuse source de bénéfices. El Grande Augusto Pinochet, dit Pinocu, pour paraphraser les Berrues, qui depuis son golpe du 11 septembre 73 réprime allègrement au Chili les quelques rares et derniers opposants socialo-allendistes qui n'ont pas encore disparu après des séances de torture et autres exécutions sommaires amplement méritées. Ce qui permet à la CIA d'en profiter comme il se doit et de continuer à bien s'amuser en Amérique du Sud en finançant avec l'argent des trafics d'armes et de cocaïne les Contras paramilitaires fascistes au Panama, au Salvador, au Nicaragua, etc. Flingues et coke, dont bénéficiera d'ailleurs la jeunesse noire et pauvre des ghettos états-uniens, qui n'en demandait pas tant pour s'entretuer, au lieu de se révolter contre une ségrégation toujours aussi violente, mais beaucoup moins insidieuse que l'apartheid sud-africaine, indéfectiblement soutenue par Reagan et Thatcher, la boucle est bouclée. De l'autre côté du mur, ensuite, dans le camp de l'URSS, la merveilleuse Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui n'a d'ailleurs jamais été ni républicaine, ni socialiste, ni soviétique, et encore moins communiste et démocratique, mais bel et bien bolchévique, autocrate et sémar. Le régime post-stalinien, donc, n'en finit pas de s'accrocher, malgré son agonie lente, mais certaine. Pour preuve, c'est le 13 février 84, succédant ainsi au cadavre de Léonid Brejnev, que l'agonisant Youri Andropov, ancien ambassadeur en Hongrie pendant la répression sanglante de l'insurrection de Budapest, ancien directeur du KGB pendant 15 ans, avant de devenir le secrétaire général du comité central du Parti unique pendant les 2 ans qui lui restent à vivre et qui meurt de sa belle mort à 70 piges. Andropov sera remplacé par le fringant Konstantin Tchernenko, 73 ans au prune, figurez-vous, stalinien orthodoxe et convaincu. C'est ce même sémillant vieillard qui relance les troupes de l'armée rouge enlisées en pleine guerre d'Afghanistan depuis 1979, dans une nouvelle offensive contre les Moudjahidines, les guerriers saints, largement financés par les USA et la CIA, et grands précurseurs des talibans des décennies suivantes. Pour rester toujours dans le bloc de l'Est, en Pologne, le 19 octobre, est assassiné le père Jerzy Popieluszko, jeune curé de 34 ans, aumônier du syndicat catho-ouvriériste Solidarnosc, ami personnel de son dirigeant Lech Walesa et virulent opposant au régime stalinien du général Jaruzelski, c'est ça, pendant des sermons enflammés suivis par des milliers de fidèles. Soutenu et félicité par Karol Wojtyla, dit Jean-Paul II, en poste papal depuis 78, qui voit une belle occasion d'affaiblir le régime athée de son pays d'origine depuis le Vatican. Popieluszko, lui, se fait enlever, torturer, jusqu'à ce que mort s'en suive, lesté et balancé à la baille par la SB, la police secrète polonaise, ce qui provoquera un énorme scandale en Pologne avec une manif de 500 000 personnes, ainsi qu'une vaste et univoque campagne de propagande dans le monde, déclenchée par les médias occidentaux, et qui affaiblira durablement le régime totalitaire polac qui ne s'en relèvera jamais vraiment. Et pendant ce temps, les populations du Sahel et d'Éthiopie crèvent la gueule ouverte pour cause de famine dévastatrice qui durera 2 ans, de 84 à 85. Sécheresse répétée, guerre ouverte entre le gouvernement militaire et la résistance armée auront pour effet l'effondrement du prix des céréales, déclenchant cette famine généralisée qui touchera 8 millions de personnes et en tuera 1 million au minimum. En Inde, ce sont entre 20 et 25 000 personnes qui défunctent pendant la catastrophe de Bhopal, désastre chimico-industriel le plus mortellement connu encore à ce jour, survenu dans la nuit du 3 décembre et provoqué par l'explosion d'une usine d'une filiale de la firme américaine Union Carbide, éructant dans l'atmosphère de la ville quelques 40 tonnes d'isocyanate de méthyle, du bon pesticide bien puant et bien létal comme on l'aime. Warren Anderson, patron de l'entreprise à l'époque, accusé de mort par négligence, mourra, lui, tranquille, peinard, dans sa belle demeure floridienne, exactement 30 piges plus tard, à 3 mois près, à savoir le 29 septembre 2014, sans jamais avoir été jugé par la justice indienne. Enfin, sous d'autres cieux, au Proche-Orient, c'est encore et toujours la guerre au Liban, pris en sandwich entre la Syrie et Israël, avec les alliés belligérants et religieux respectifs qui vont avec, et des tas de milices dans tous les sens, et toujours le peuple palestinien dont finalement personne ne veut. Bref, un immense foutoir depuis 1975, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, excusez mon ignorance. Et puis, Et puis c'est la guerre aussi, en Iran, Irak, depuis 4 ans déjà, qui sera rebaptisée Première Guerre du Golfe, avec d'un côté le régime de la République islamique proclamé par l'ayatollah Khomeini, qui a renversé le fameux et fumeux Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, si vous voulez tout savoir. Oh, je l'ai dit sans, sans bafouiller, bravo. Donc le Shah d'Iran, homme de paille mis en place par les USA un an avant le début de la guerre, en 79, à savoir exactement la même année que l'arrivée de Saddam Hussein et de son régime baasiste, directement soutenu par ces mêmes USA. Forcément, c'est la merde, avec les États-Unis qui tirent les ficelles dans tous les sens, en jouant cyniquement avec un feu qui couve déjà, avec un monstre de Frankenstein qu'ils contribueront à créer avant qu'il ne pète à la gueule du monde entier dans les premières décennies de notre siècle à nous, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Voilà pour la planète. Et la France, dans tout ça. Eh ben, en 84, ont lieu de grosses manifs de sidérurgistes lorrains en lutte pour que leur boulot et leurs usines ne disparaissent pas pour cause de crise de la sidérurgie qui commence à battre vraiment de l'aile depuis la première crise pétrolière et des multiples restructurations qui en découlent et qui l'accompagneront. Mais aussi, dans un autre registre bien plus droitier, on assiste à d'énormes manifs, Cato, contre la réforme de l'enseignement privé. 1 million de manifestants à Paris, quand même. Sous le poids du nombre et des pressions de l'Église, Mitterrand en demandera le retrait, déclenchant la démission de tout le gouvernement maurois, remplacé par Fabius le 18 juillet, sans les communistes, qui quittent la majorité le 6 septembre. Le divorce est définitivement consommé, l'union de la gauche enterré et la lente agonie du Parti communiste français ne fait que commencer. Ceci, expliquant cela, c'est le Front National qui en devient le premier bénéficiaire de cette chute du PC lors des élections européennes du 17 juin où le FN gagne 10 élus avec 10,95% des voix. Percé qui contribue donc à l'effondrement du PCF avec seulement, pendant les mêmes élections, 11,2% des voix. Alors que le tout nouveau ministre des Finances, pardon, Pierre Bérégovoy, mène une politique de désinflation compétitive, je cite, on assiste logiquement à une forte hausse du chômage qui monte à 8,6% de la population active. Les premières réformes libérales commencent donc dès le départ à faire leurs premières victimes et ce n'est que le début. Mais 1984, c'est aussi la fameuse affaire du petit Grégory, qui provoquera une gigantesque vague d'émotions nationales et surtout un énorme et malsain pataquès médiatico-judiciaire, dont le résultat le plus probant sera le ratage total de l'élucidation du meurtre, et ça, ad vitam aeternam. Et puis, sans rapport avec le schmilblick du petit Grégory, 84 voit également la création de Canal+, la première chaîne de télé privée et payante, qui paradoxalement défend une liberté de ton et une ouverture d'esprit encore jamais vue en France à la télé et qui marquera plusieurs générations. Sans parler sur Canal+, du top 50, classement des meilleures ventes de 45 tours, albums et compilations, en vente chez les disquaires et autres supermarchés, qui sera une vitrine fantastique pour toute l'industrie du disque, surtout pour les labels commerciaux, qui commencent d'ailleurs à être rachetés par les majeures compagnies Ricken et English, comme principalement Universal, CBS et Virgin. Virgin, en fait, EMI, racheté derrière. Ce qui aura pour conséquence la privatisation globale de toute la chanson française et des artistes qui vont avec. 3 petits points. Toutes, point d'interrogation, non, point d'exclamation, un village peuplé d'irréductibles quepons résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et ce village, c'est le milieu alternatif, même si le terme n'est pas encore employé à l'époque. Personne n'est encore pleinement conscient qu'un mouvement alternatif est possible. Et surtout, aussi les acteurs directs du mouvement alternatif. Personne n'en est donc encore conscient à l'époque, mais les envies, les velléités, les actions comme les besoins sont très forts et vont en provoquer l'explosion. Les groupes, punk rock d'abord, puis de tous les horizons musicaux au fur et à mesure, se multiplient en rentrant dans les brèches créées par les groupes qui les ont précédés. Les labels indépendants, autonomes et pourfendeurs de l'industrie marchande se créent dans tous les sens. La sauce prend à Paris, comme en province, la toile se tisse. À partir de 82, Kronstadt Tapes à Saint-Étienne. En 83, Closer au Havre, mais surtout à Paname avec Rock Radical Records, puis Bondage Productions, VISA. VISA qui est l'acronyme de Visuel Info Son Archive. En 84, c'est Gouniaf Mouvement. Et en 85, Boucherie Production, pour ne citer que les précurseurs. Et évidemment, j'en oublie. Dernière chose, enfin, et ouf, dernière chose, et pas des moindres, puisque le mouvement alternatif en pleine gestation étant virulemment indissociable des luttes libertaires, antiracistes et antifascistes, les résultats des élections successives, qui voient donc la confirmation de la percée d'un FN en progression constante, est un véritable électrochoc pour une partie pas si minoritaire de la jeunesse, qui se politise de plus en plus, se radicalisant à la hauteur des résultats de Le Pen et consorts. Ce qui va enfin motiver les troupes et lancer un paquet de monde dans la lutte antifa. C'est bel et bien la récupération et le phagocytage du mouvement skinhead et de leurs acolytes. Le phagocytage du mouvement skinhead et de la musique ska, jamaïco-british, donc métissée, par les premiers Boneheads, néo-nazis avérés, inspirés par leurs acolytes anglais, réunis en bandes ultra-violentes et qui commencent à foutre la merde dans les rues comme dans les concerts. En guise de riposte, l'action militante et directe la plus probante sera l'apparition des premiers Red Warriors et autres Redskins à partir de 86, mais surtout et d'abord la création du Scalp, section carrément anti-Le Pen, mouvement antifasciste radical autant inséparable et complémentaire de la scène alternative et qui voit le jour à Toulouse en 1984, justement, avant d'essaimer sur tout le territoire. Encore une autre aventure à vous conter, les amis, mais un autre jour. Car, pour finir cette très longue intro, et pour mémoire, je me paraphrase par rapport à la fin de la dernière émission sur Il y a 30 piges, nous en étions donc restés au moment où, après quelques années de maturation et d'expérimentation, la scène punk fédérée et les labels qui se créent dans le même bouillonnement commencent doucement mais sûrement à prendre conscience du mouvement qu'ils engendrent et se sentent de plus en plus puissants à force d'essaimer à tout va. Mais ne manque alors au tableau qu'un ultime élément qui permettra de mettre le feu aux poudres et de passer à la vitesse supérieure, à savoir l'explosion d'un groupe qui déclenchera la mise à feu. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais c'est sur Beru Riennoir que ça va tomber. Beru Riennoir qui va devenir ce phénomène incontournable autour duquel tous les acteurs du mouvement alternatif vont enfin apparaître au grand jour. Avec les Beru, plus rien ne sera jamais plus comme avant, comme nous venons de l'entendre et comme nous allons l'écouter à l'instant.
Cette chanson est dédiée à Pierrot du Dérorier. Mais la 178, le rassemblement. Yeah.
Les amis, comme vous l'avez sûrement deviné, le morceau Les Berruriers sont les rois, donc Berrurier Noir évidemment, issu de la bataille de Palikao, pardon, la bataille de Palikao, voilà, je le prononce bien, qui est sorti à l'origine en 83 chez Visa, label dont on parlait, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été réédité ensuite chez FZM Folklore de la Zone Mondiale, le label des Berrus, plus Last Call, et enfin réédité chez Arcade en 98 exactement. Ce morceau-là, comme les morceaux qui vont autour, c'était quand même voilà hein, logique de vous passer qu'on se passe ensemble. Les Berruriers sont les rois. En conclusion de cette très très longue intro, j'espère que vous avez que ça n'a pas été trop rébarbatif. Sinon, hein, vous pouvez aller pisser. N'hésitez pas. Vous faites une petite pause si c'est de la si c'est de la réécoute. Sinon bah voilà, vous pourrez réécouter tout à l'heure. Enfin un autre jour. Je m'égare complètement, et je m'en fous royalement. Alors, ce morceau, comme les autres, donc, sont issus de la première cassette, toute première cassette, qui contient 13 titres en live, et qui s'appelle « Meilleurs extraits des deux concerts à Paris ». Ces deux concerts ont eu lieu à Palikao. Palikao, c'était une sorte de squat, un endroit très, très branchouille, artistique, d'avant-garde. Et les concerts ont eu lieu le 19 février 83, ainsi qu'à La Roquette, la salle de La Roquette, le 1er juin 1983. Et donc, comme je vous le disais, cette cassette est sortie à l'origine chez Visa, et c'était la toute première trace enregistrée des Berrus. Donc maintenant, maintenant, évidemment, on va faire un petit tour autour des Berruriers Noirs. Alors bon, je me suis quand même pas mal documenté sur tous les groupes qu'on va se passer, non seulement pendant cette heure, mais les heures qui vont suivre. Alors, Berruriers Noirs, Berruriers Noirs, ma langue fourche. On va commencer par le line-up en 83, précisément. Alors, qui fait partie des Berrus à l'époque? Alors, il y a déjà François Guillemot, dit Fanfan Berru, au chant et au texte. Il y a évidemment Laurent Katrakazos, j'ai retrouvé son nom de famille, alors ça je vous dis pas, ça fait 25 ans que je le cherche, je l'ai trouvé complètement par hasard sur internet. Donc Laurent Katrakazos, dit Laurent Berru, à la guitare et à la programmation de la boîte à rythme, ainsi que Dédé, c'est la boîte à rythme, la mythique Electro Harmonix DRM-16. Les Berrus sont de Paris, préformation en 1980, formation de Berruriers Noirs le 19 février 83 à l'usine Palikao, et séparation le 11 novembre 89, puis reformation 2003 jusqu'à 2006. Bon. Toute première formation, Berrurier tout court, en hommage à San Antonio de Frédéric Dard, bien sûr, avec François, qui arrive au chant, Olaf Fellingstone, qu'on retrouvera ensuite dans les Ludwig, et Pierrot au gratte et Bart Terrifiant à la batterie. Le batteur s'en va, remplacé par la fameuse DRM-16, puis Olaf démissionne pour cause de service militaire en Allemagne. Olaf sera remplacé par Laurent, puis Pierrot, hors service, à cause de cures de désintoxication, désertion des paras, HP, hôpital psychiatrique, la totale. On est donc à ce moment-là en 80. François est encore au lycée, Laurent bosse déjà à l'usine. Les deux compères sont rencontrés très tôt. Laurent se barre de chez ses parents à 14 piges, se retrouve à la rue, chez des potes, à droite, à gauche, surtout à gauche. Il est recueilli par la mère de François et habite longtemps chez eux. rapport très passionnel entre eux deux, Laurent considérant François comme son grand frère et son maître, entre guillemets, au niveau intellectuel, et François, gros lecteur, au penchant suicidaire. Comme dans un couple, les deux s'équilibrent et se soutiennent l'un l'autre. Les premières chansons de Berrurier Noir, Macadam Massacre en l'occurrence, ont été écrites dans la piaule de François et datent toutes de cette époque. En 84, Fanfan a 21 piges, Laurent 20. Concert d'adieu, donc, le 19 février 83 à l'usine Palikao, sous le nom et le titre de Berrurier Noir. Suicide, qui sera en fait une naissance avec le soutien de Lowell et d'Elno, de Luc Ratmilk, qui montent sur scène une fois bien entamés et bien bourrés pour y faire les cons. Et qui, ce qui devait être un dernier concert, devient en fait un premier. Palikao était un lieu artistique avant-gardiste. François et Laurent montent une performance à l'arrache totale, calée en deux répètes de 2 heures chacune, moitié improvisée, avec les pompes, des textes à la pogne et expo de peinture faite par des potes et attitude théâtrale sur scène. D'où l'idée d'une valise avec du matos et des masques dedans. Dans l'optique de créer un théâtre de force, bref, quelque chose de percutant avec des moyens très réduits. Du coup, le concert est démentiel et va marquer la naissance du duo de départ, ou plutôt trio, puisque la boîte à rythme, prénommée Dédé, fait déjà partie intégrante de la formation. Dédé, c'est en fait juste un jouet d'occasion avec pas plus de 5 ou 6 rythmes, dont rock, funk et disco, et juste des changements de vitesse, ce qui caractérisera carrément les Berrus au niveau de leur identité sonore et sur laquelle ils vont enregistrer près de 50 morceaux. Et d'ailleurs qu'un petit bisu en école de commerce va chouraver pour un pari à la con, juste avant le concert du Forum des Halles du samedi 7 avril 84, dont Gaboni, le batteur de Luc Ratmilk, assura le remplacement totalement à l'arrache et en pleine hystérie, les Berrus ayant longtemps pensé qu'il s'agissait d'un attentat fasciste pour empêcher le concert. Quant à François, il est aux Beaux-Arts et Laurent joue aussi dans Guernica avant de s'en barrer pour des histoires de jalousie entre groupes qui saoulent carrément Laurent. Personne ne s'est jamais dit « on va faire un groupe ». Après un deuxième concert à Tours en avril, retour à Paname en juin pour un troisième concert Salle de la Roquette, organisé par Art Béton, scène partagée avec Luc Ratmilk et d'autres groupes qui commencent à prendre de l'importance, concert où débouleront 1000 personnes. Ce qui change de dimension et de perspective et leur prouve qu'il y a une vraie demande. Vachement influencé par l'expressionnisme, le dadaïsme, le situationnisme, avec un côté très provo et un énorme mal-être pour François. Bref, un besoin de hurler pour ne pas en être dévoré de l'intérieur. Côté traumatisé, carcéral, viscéral, cérébral, qui marque l'identité musicale des débuts berruriers avant que débarque le côté festif et foutraque, qui s'ajoutera spontanément par l'intervention de potes de la raya, la tribu, la bande. C'est-à-dire les tontons, Lowell, Elno, Jojo et Masto au saxo, et avant l'arrivée des Titi, Karine et Florence. Premier contact avec Visa, donc le label Visuel Info Son Archive, label de cassette, issu d'une émission de Radio Libertaire, pour mettre le premier concert sur cassette, puis enregistrement du premier disque, album split avec Berru en face B et Guernica en face B. Album split qui va contenir 4 titres chacun et qui s'appelle Nada Gloco, enregistré de manière très rudimentaire dans un tout petit studio à la Cambrousse et qui sort chez Shin Produc en septembre 83, réédité ensuite sous Nada en 85 chez Bandage. Et dont les Berrus ne sont pas très contents puisqu'ils le trouvent carrément merdique. Macadam Massacre, le premier véritable album berrurier, sera enregistré dans la foulée à Ivry, au studio Anagram, en décembre 83, grâce au soutien de Kid Bravo, qui faisait partie des The Brigades, et de Philippe Baya, qui a produit le premier album du même groupe. Il sortira début 84 sur le label Rock Radical Records, qui est une association loi 1901, donc sans but lucratif, ancêtre de Bondage Productions, avec une vraie recherche au niveau du son et une ambiance franchement sombre, dépressive et suicidaire qui illustre bien le profond désespoir que les Berrus ressentent à l'époque. Ce premier album, donc, qui va leur permettre de s'ouvrir sur un public en province et qui va commencer à fédérer autour des Berrus tout un paquet de gamins qui ressentent et partagent le même désespoir et le même dégoût de la vie et de la société. Album suivi par le 45 tours Nada 84, enregistré en une journée sur un 8 pistes Pérave et financé à hauteur de 800 francs en vendant opus des fringues de la grand-mère de François. Les petits concerts, de moins en moins petits d'ailleurs, se succèdent. Les tournées se font avec tout le monde, dans la DS, la bagnole, vous savez, Citroën, DS, et le matos dans le coffre de la bagnole Idouane. À partir de septembre, fin septembre, commencent sur scène les concertos pour détraquer, pour roder les nouveaux morceaux, avant la sortie de l'album éponyme, qui sortira en février-mars 85. C'est François qui s'occupe des coulisses administratives du groupe, vite débordé avec ce fameux dernier album qui va vraiment les faire passer à la vitesse supérieure, submergé par les propositions de concerts, par le courrier de centaines de fans, par les fanzines et les demandes d'interviews. Interviews. Marsu arrive donc à la rescousse. Marsu, ancien fanzineux acharné, vieux pote des Lucrat Milk, que les Berrues retrouvent dans le label Rock Radical Records avant sa mutation en Bondage Productions, donc, est très au fait des réseaux musicaux et associatifs, des méthodes de boulot efficaces dans son organisation, cohérent dans la forme comme dans l'esprit, et qui commence à tisser la toile d'araignée de ce qu'on n'appelle pas encore le mouvement alternatif, en fédérant tout ce beau monde dans le but de construire une alternative musicale et politique si possible. Bref, Marsu va ainsi devenir, en août 85, le manager des Berrues par la force des choses, mais c'est la suite de l'histoire, et elle sera aussi pour une prochaine fois. Parce qu'en parlant des Berrues, impossible de dissocier leur démarche artistique de leur démarche politique. Les premiers concerts des premiers Berrues, tout court, ont lieu au squat des Vilains, rue des Vilains, dans le 20e arrondissement de Paris, squat dans lequel François et Laurent ont beaucoup traîné. On peut citer aussi le squat des Cascades, où ont lieu un gros paquet de concerts. Ces squats qui deviennent les premiers lieux de rencontre des groupes de l'époque et qui permettent certainement l'autonomisation et la conscientisation d'une grosse partie de la population qui y passe. Les Berrues n'y échappent pas et s'en nourrissent pour abreuver leurs idées radicalement anarchistes. Le groupe, comme la scène, deviennent un magnifique terrain d'expérimentation situationniste et immédiatiste. On y reviendra, promis. Voilà en ce qui concerne donc les Berrues. Et ben voilà, c'était un sacré tour, je sais pas combien de temps on en est d'émission, mais on va très très vite enchaîner avec évidemment le groupe frère frangin des Berrues, à savoir les Ludwig, Ludwig von 88. Alors tout ça pour vous dire, juste pour présenter le morceau qu'on va s'écouter ensemble, le morceau que je vous ai, 1, 2, 3, que je vous ai choisi donc pour les 30 piges, s'appelle UTDM, à savoir Une tête de mort. C'est un des tout premiers morceaux des Ludwig, il date de 84, comme quoi on est vraiment dedans. Il est même pas sorti jamais en disque. Je l'ai trouvé complètement au pif, bah justement, en faisant mes recherches pour l'émission. Il est sorti sur un truc autoproduit qui est sorti en 2012, qui s'appelle Early Tapes, Ludwig von 83-84, et sur lequel on retrouve plein de vieux morcifs des Ludwig, qui c'est donc même des morceaux qui datent d'avant le premier album. Oulala, qui ne sort qu'en 85, et qui est donc ces early tapes, qui sont donc une réédition inédite et mystérieuse, parce que je sais pas d'où ça vient, des tout premiers morceaux des Ludwig, démos enregistrés donc de 83 à 84, avec une majorité de morceaux signés Olaf Fellingstone, dont on a parlé, le premier guitariste des Berrues, dont on parlait tout à l'heure. Et maintenant, on va s'écouter un peu de musique quand même, parce que j'ai la gorge toute sèche, et je suis sûr que vous avez les oreilles et les neurones qui chauffent. Alors voilà, les Ludwig avec UTDM. Une tête de mort sur un casque US. Les armes étonnées, perte de bonheur. Hop là, une tête de mort sous un casque US UTDM, donc signé Ludwig von 88, ou plus précisément Olaf Fellingstone. Le morceau donc j'ai trouvé complètement par hasard sur les fameuses early tapes 1983-1984. Le morceau, lui, doit dater de 84, me semble-t-il. Vous pouvez trouver ça en chinant sur internet, comme j'ai pu le faire, et en tombant miraculeusement dessus. Je pensais avoir dégoté tous les inédits ludwigiens, et ben figurez-vous qu'il en reste encore. Alors c'est démentiel. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? UTDM, qui est d'ailleurs un morceau qu'on peut retrouver uniquement sur les lives des Ludwig, les deux lives qu'ils ont pu sortir, un sur Bondage et l'autre sur Crash Disc. Voilà. Alors, pour les Ludwig. Pour les Ludwig, le line-up en 84, c'est d'abord Karim Berouka et Fabrice Barthelon, tous les deux au chant, Bruno Garcia, Dino Bru et Olivier Fellingstone, donc le fameux Olaf, ainsi que Laurent Manet à la guitare, Laurent Porte ou Portes, je sais pas comment on dit, à la basse et Ludwig Percussions, évidemment, à la boîte à rythme. Les Ludwig sont de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Ils sont sous cette formation de 83 à 88. Ensuite, la basse, François Gondrax viendra remplacer la basse jusqu'en 90. Et formation définitive avec Karim Nobru et Charlu Ombre qui remplacera François Gondrax à la basse. Ensuite, et puis évidemment Jean-Michel Rossignol alias Junior Conny qu'on retrouvera à la programmation musicale jusqu'à la séparation en 99 avec le quatuor précité. Voilà. Donc maintenant on va rentrer comme dans les premiers épisodes. Il y a 30 piges, 1983, où j'ai trouvé de très très bonnes interviews dans une source que je vais vous citer, qui s'appelle Niark Niark, fragment des scènes punk et rock alternatif en France, 1976-1989. C'est un bouquin d'Arnaud Rudeboy qui est sorti aux éditions Zone et Folklore de la Zone Mondiale en novembre 2007 et qui est un vrai, vrai trésor. On retrouve donc des interviews, des témoignages directs de tous les acteurs du mouvement alternatif de l'époque. Donc, dont D-O-N-T, une interview de Karim Berouka, l'auteur et le chanteur des Ludwig, une interview qui date du 2 novembre 2006. Et dont voici un petit résumé. Alors, j'ouvre les guillemets et je cite. Ludwig, ça débute en banlieue parisienne, un peu lointaine, du côté de Boissy-Saint-Léger. On était au Bahut et on voulait faire de la musique. On a commencé pour s'amuser. Là, on est en 83, début 83. 81 a été une date importante avec notamment la libération des ondes. Jusque-là, la bande FM, c'était uniquement 5 ou 6 radios, dont une qui passait vaguement de la musique pour jeunes de temps en temps. Et tout d'un coup, paf, on entend des radios partout. Pendant un an, il y avait des radios qui se créaient tous les jours et autant d'émissions de punk, de new wave, etc. En 83, j'avais 19 ans. Les autres, entre 18 et 22, on était plus ou moins punk. De toute façon, à l'époque, quand ça a commencé à bouger, il y avait plein de groupes qui se sont formés et qui étaient tous reliés par cette idée d'alternative. Mais l'alternatif, n'était pas un courant musical. C'était une opposition à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les formats officiels, les maisons de disques qui prenaient des groupes, qui voulaient leur faire faire soit du trust, soit du téléphone, parce que c'était les groupes qui marchaient. Eux, c'était business, top 50, les restes des années 50-60 avec Barclay et compagnie. Il n'y avait rien d'organisé, c'était l'arnaque partout. Nous, c'était « on est alternatif parce qu'on refuse ce système officiel pourri composé uniquement de gens qui n'ont rien à voir avec les jeunes ». C'était un peu pareil dans la presse. Ils ont un peu suivi, mais ils ont eu du mal au début. Tous les journaux étaient largués, pas uniquement sur les Ludwig, mais sur tous ces genres de groupes, Beru, Washington, Dead Cats. Les plus ouverts, c'était les gens de rock and folk, Best, mais ils étaient bloqués sur le Velvet Underground, les Stones. C'était dur de leur faire comprendre qu'il y avait autre chose. Quand on a commencé, rock and folk avait 10 ans de retard. Maintenant, ils en ont 30. On avait fait une interview pour Les Inrock, un des premiers numéros. Et le journaliste nous engueulait parce qu'on répondait n'importe quoi aux questions. C'est pas sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je mette dans mon article ? Bah, tu mets ce qu'on te répond. C'est juste devenu très intello, un peu fashion. Ces gens-là ont complètement raté le coche du mouvement alternatif. Ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils étaient probablement trop vieux, même si c'est con, car il y a aussi des vieux dans le mouvement. Ils étaient bornés sur la musique des années 70, le glitter, les rockstars qu'il faut respecter. Nous, on est arrivés en disant « On n'est pas des stars, foutez-nous la paix, on veut pas avoir notre nom sur un monument, on s'en branle. » Et ça, c'était un peu blasphème quand même. Il n'y a pas besoin de donner une valeur factice à la musique, elle a de la valeur dans ce qu'elle est. Pas besoin d'intellectualiser quelque chose qui n'est pas intellectuel, c'est de la musique populaire. Quand le disque est sorti, la réaction de la presse a été « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Satan est là, les mecs sont pas sérieux, ils font des fausses notes, ils vont jamais y arriver. » Et puis ça a décollé, ça a balayé ce côté un peu establishment. À l'époque, il y avait que dalle au niveau sortie de disque. Il y avait pas grand-chose, les groupes français étaient rares, c'était compliqué de les voir sur scène, et souvent c'était pas très bon. Quand Adochine a sorti L'Aventurier, on trouvait ça original, mais il y avait Varunjo, les groupes qui sortaient chez New Rose, La Souris Déglinguée, qui était vraiment bien, mais il y avait qu'un disque qui sortait tous les mois. Quand les Berruriers Noirs, Ludwig von 88 et Washington Dead Cat sont arrivés, il y avait vraiment eu quelque chose qui parlait aux gens, dont ils se sentaient plus proches, car ils comprenaient les paroles. Les disques étaient pas chers. Quand Oulala est sorti à la Fnac, il s'était trompé dans les prix. Il était à 33 francs. C'était cool. Les gens ont vachement accroché tout de suite. Nous, on partait du principe qu'on était comme le public. À l'époque, un concert à 50 francs, c'était cher. Alors, on faisait des petits prix. Même chose pour les disques. On s'en foutait, on vivait pas de ça. Quand il y avait de la thune, on achetait un camion, une guitare. On savait même pas ce que c'était que l'intermittence. Le but, c'était de faire de la musique, d'avoir un contact avec les gens sur les concerts. Oula. Oh, je me gourde pas, attendez. Je continue donc. On a fait un groupe avec un type qui s'appelait Olaf, qui avait joué avec les Berruriers. Pas les Berruriers Noirs, les Berruriers, qui après sont devenus les Berruriers Noirs. Il avait écrit pas mal de chansons pour eux, comme La mort au choix. On s'est retrouvé à jouer avec les Berru et à Émerainville, c'était, je pense, notre premier concert et on a continué pour le plaisir parce qu'on s'amusait vraiment. Ça s'est construit au fur et à mesure. Il n'y avait pas une volonté générale pour faire quelque chose de précis, mais tout d'un coup, il y a eu une sorte de courant de liberté. On s'est dit, on peut le faire. On a eu un plan pour enregistrer dans un studio qui était à l'époque un studio de luxe, sous le Palais des Congrès, parce qu'on avait un pote qui était assistant ingénieur, qui depuis a beaucoup travaillé avec NTM, Sergent Garcia. À l'époque, il débutait et il nous a dit « On peut aller dans le studio les week-ends et les nuits, ça nous coûtera que dalle. » Du coup, on s'est dit « On fait un disque. » On ne savait pas jouer, on ne sait toujours pas, mais c'est pas grave. On ne connaissait rien au studio, mais on a fait notre premier disque et on l'a emmené à Bondage. On avait déjà fait un 45 tours, enregistré avec une cassette, un magnéto-cassette dans le local de répète. C'était le frère du bassiste de l'époque, qui était journaliste et qui maintenant travaille au Zinrock, Jean-Luc Manet, qui nous avait dit « C'est bien ce que vous faites, je vous avance la thune pour faire le disque. » C'était pas un investissement énorme. Hein. L'enregistrement studio, c'est oulala, avec un son qui est assez roots. On l'a fait sans se poser de questions, c'était instinctif. On peut le faire, on a envie de le faire, on le fait. Voilà, fin de l'interview. Maintenant, on va... Combien de temps il nous reste, mon Lulu ? Il nous reste 10 minutes. Ah bah 10 minutes, on a encore le temps de se passer un petit morsif et un petit laïus documentaire et historique. Donc, eh ben, après les Ludwig, les Amunch, on va passer à un groupe qui commence par P, par pas, puis après il y a Parabellum. Parabellum, ah bah, bien joué, vous avez deviné tout seul. Parabellum qui commence également en 84 et dont on va s'écouter un des tout premiers morceaux enregistrés. Alors ça, pareil, faut chiner sur Internet hein, pour le trouver. Il n'est plus du tout réédité. Le morceau, il s'appelle « La bombe et moi ». C'est bel et bien la première version du morsif, parce qu'il y en a eu, après. Il est extrait du tout premier 45 tours de Parabellum, qui contient trois titres. Donc « La bombe et moi », on retrouve aussi « SVP 0838 », ainsi que « Momo, la petite balle du samedi soir ». Donc... Ce premier 45 tours des Parabellum, il s'appelle « On est gouverné par des imbéciles » et il est sorti en 84 chez Gougnaf Mouvement. La bombe et moi. Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Allez, on va la sauce, mon Lulu.
Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi.
Basta, La Bombe et Moi, signé Parabellum, issu donc du tout premier 45 tours des Paras qui s'appelle On est gouverné par des imbéciles, sorti chez Gougnaf Mouvement en 84. Voilà, alors Parabellum. Il y a 30 piges, exactement, Parabellum. En 84, le line-up, c'est Schultz, alors de son vrai nom, Roger Fritsch, à la gratte et au chant. On retrouve Roland Chamallow, à la basse. Il y a Jean-François Juvanon aussi, dit Cambouis Wunderbar, à la batterie. Et on retrouve Francis Laperche, dit Géant Vert, dit GVI, à savoir Géant Vert Incorporated, aux paroles et au graphisme. Sven, Lava Paul Hammer, alors ça c'est son vrai nom, c'est pas un alias, c'est pas un surnom, Sven Lava Paul Hammer, qui rejoindra Parabellum à la deuxième gratte, mais seulement à partir de 85. Parabellum, ils sont de Paris. Du coup, du moins, ils sont tous rencontrés et formés à Paris. Formation donc avec Schultz, Sven, Roland, Géant Vert et Patrick Lemarchand à la batterie de 86 jusqu'à la séparation en 91. Reformation de Parabellum à partir de 97 avec le même line-up. Donc Schultz, Sven, Roland, Patrick et Géant Vert. Roland, bah lui, il part en 98, il quitte Parabellum à ce moment-là et Roland décède le 11 décembre 2011. Roland sera remplacé à la basse par Olivier Méran jusqu'en 2011, qui lui-même, Olivier, sera remplacé par Stéphane Zena, dit Steph Zen, jusqu'à la fin. Départ de Géant Vert et de Patrick en 2002, remplacé à la caisse par Xavier Mesa, jusqu'à la fin aussi. Xavier, le Xa qui déboule de Bébé Doc, qui a joué avec Pigalle, qui a joué avec les Garçons Bouchers, entre autres bien sûr. Donc cette formation, à savoir Schultz, Sven, Xa à la caisse et Steph Zen à la basse, eh ben, ça sera la formation jusqu'à la fin, et la fin de Parabellum, c'est-à-dire eh ben, jusqu'au décès brutal de Schultz le 12 décembre 2014. Donc Parabellum, au départ, il y a Schultz qui vit à Thionville et qui se prend en pleine gueule les 45 tours des Sex Pistols, des Ramones, des Saints. On est en 77, Schultz a 16 ans. Quelques temps plus tard, avec des potes du coin, ils décident de monter un groupe. Ce sera les GTIs, parce qu'en sortant de boîte de nuit un soir, ils tombent sur une Golf GTI, comme quoi le nom des groupes, eh ben, ça tient pas à grand chose. Quelques concerts, une démo sur cassette, mais Thionville à l'époque, c'est plutôt zone sinistrée. Et sur conseil d'un de ses frangins qui bosse à Paris et qui va l'héberger, Schultz monte à la capitale. Répète dans un squat et au bout de quelques mois, rencontre fortuite avec Bébé Rock et Coco, respectivement gratteux et batteur des Porte-Manteaux, groupe punk rock Parigo qui existe depuis 78 et qui cherche un deuxième guitariste en remplacement d'un certain Sven Paul Hammer qui aura joué 6 mois dans les Porte-Manteaux et que Schultz va remplacer. Au bout d'un an, Schultz se barre du groupe, agacé par le fait que Bébé Doc insiste très lourdement sur Elsa Fräulein, un morceau que Schultz n'aime pas du tout, d'où son départ. Morceau qui, pour l'anecdote, se retrouvera au top 50 en 87 avec 350 000 exemplaires vendus. Schultz ne quitte pas les Porte-Manteaux seuls, mais en compagnie de Roland Chamallow. Ils vont commencer à répéter ensemble avec une boîte à rythme, vide remplacée à l'arrivée de Cambouis, qu'on retrouve également dans Wunderbar, puis Gogol Premier, La Souris Déglinguée, Prop Sac et Karbala 413 avec Géant Vert. Donc, l'arrivée de Cambouis avec une batterie dans le célèbre parking 2000, c'est-à-dire un parking dont tous les box du troisième sous-sol avaient été aménagés en locaux de répète. Géant Vert, déjà à fond dans le chepon et le fanzine, traîne dans le coin, les rejoint rapidement et commence à écrire des textes. C'est d'ailleurs Géant Vert qui trouve le nom du groupe Parabellum, qui vient d'un t-shirt fait main par ses propres soins et qu'il porte à une répète et sur lequel on peut lire la devise latine « Si vis pacem para bellum », à savoir « Qui veut la paix ?» prépare la guerre. Et Dixit Géant Vert dans le texte, c'est la devise des pays possédant l'arme de dissuasion nucléaire qui reprenait celle des Romains qui considéraient que plus on repoussait les frontières de l'Empire, plus la cité était en sécurité. Et c'est devenu, plus vous êtes assis sur des mégatonnes de bombes thermonucléaires, plus vous êtes en sécurité. Parce que personne n'osera allumer le pétard. J'avais trouvé ça tellement cynique que j'ai commencé à en faire un t-shirt et c'est devenu un groupe. Fin de citation. Mais Parabellum, c'est aussi le nom d'un pistolet semi-automatique des deux premières guerres mondiales, de fabrication allemande, le Luger P08, dit Luger Parabellum 9 mm, qui deviendra leur emblème graphique. On est donc en 84, Schultz a 23 piges, et c'est sous cette formation à 3 plus 1, autrement dit Schultz, Roland, Cambouis sur scène et en studio, plus GVI en éminence verte, que le groupe va faire sa première scène le 17 juin 84 à Gentilly, avec Les Vents Passent, ou du moins va essayer, puisque personne ne pourra jouer à cause de baston général. C'est aussi sous cette même formation qu'ils vont enregistrer leur premier 45 tours, On est gouverné par des imbéciles, enregistré à l'arrache au studio Jet Production, à Agondange, en juillet 84. Les Gaillards vont en envoyer une cassette, avec une fausse pochette du dessinateur Vuillemin au label Gouniaf Mouvement, qui trouve ça carrément génial et qui veut en faire un disque. Et ce disque qui sortira donc en automne de la même année et sur lequel on retrouve les trois premiers morcifs de Parabellum sur des textes de Géant Vert et des zics de Schultz. Donc, pour rappel, SVP 08 38, Momo, la petite balle du samedi soir, et La Bombe et moi, qu'on s'est écouté tout à l'heure, qui, d'après GVI, est une vanne sur une chanson d'Eddie Cochrane qu'il avait écrit pour le film La Blonde et moi, Girls Can't Help It. C'est une chanson facile, énergique, le texte est simple, la musique est simple, c'est vraiment une queponnerie de base. Le texte est d'une facilité, c'est fun, c'est tellement exagéré. C'est pas un grand moment de militantisme anti-ricain. Fin de citation. Bref, La Bombe et moi, donc tout premier morcif du premier 45 tours de Parabellum, qu'on s'est esgourdé, puis qu'est-ce qu'on va s'esgourder maintenant, mon Lulu ? Eh ben, c'est la fin, je crois, hein, donc on va... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais voir plus fort !
Oh ben dis donc, ouais. Oh, c'est le générique de fin !
Mais j'avais oublié qu'il y avait un générique de fin, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas passé, bordel. Donc, eh ben, chers auditeurs, chères auditeuses, vous l'avez compris, le premier épisode de Il y a 30 piges 1984 est donc fini. Suite directe la semaine prochaine pour une nouvelle salve de groupe, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Sachez que la semaine prochaine, on fouillera et on s'écoutera quand même un petit peu. C'est vrai, hein, pas beaucoup de musique, mais beaucoup de blabla, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a tellement d'informations à découvrir et à apprendre et puis à vous retransmettre aussi on s'est écouté 4 morceaux aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura sûrement un petit peu moins de blabla, beaucoup plus de musique, j'espère, avec en l'occurrence Les Vents Passent, les Washington Dead Cats, les Rats, les Tugs. Et le reste, ça sera surprise, cadeau bonus. Bon, bah, émission censurée, c'est fini pour ce soir, et c'est déjà pas mal. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles vieilles aventures alternatives, à savoir mercredi de 18 à 19h pour l'apéro, et puis émission censurée rediffusée le dimanche de 21 à 22h. Hein, je dis tout ça de mémoire parce que j'ai pas mon texte habituel. Vous pouvez rester sur l'antenne d'émission de Radio Caraïbes, bien sûr, il y a des émissions après émissions censurées, vous pouvez podcaster, télécharger les émissions caribéennes dont émissions censurées sur le www.rcn-radio.org et l'intégrale c'est toujours sur www.davidvincentetsesmutants.com. On se retrouve donc la semaine prochaine et en attendant que nous nous y retrouvions, vive la résistance, vive le rock libre et alternatif, vive nous et vive tous ces bons groupes. Bonsoir.